Bonjour. On va le faire en français. Pour nous, c'est un peu égal le faire en français ou en anglais parce que on est tous les deux italiens et argentins. Mais procédons en français. Nicolas Baia Lafitte et Tommaso Venturini de Sciences Po Media Lab. On va vous parler de quelque chose qui est déjà un peu dans l'air, qui est la cartographie des controverses comme méthode et approche théorique pour l'étude des dossiers des controverses, et que nous développons, Bruno Latour a fondé, que nous développons à Sciences Po. Et donc voilà, la cartographie des controverses, comme beaucoup d'entre vous savent, et il a été introduite par Bruno Latour il y a déjà 20 ans, comme une méthode d'enseignement pour apprendre aux étudiants, notamment à l'école des mines, et à faire des enquêtes, à mener des enquêtes sur des controverses sociotechniques. Cette méthode a connu un succès très grand, et aujourd'hui, la cartographie des controverses est enseignée dans plusieurs universités, à Paris, à Sciences Po et ailleurs, à l'École des Ponts et dans plusieurs endroits, mais aussi à Copenhague, à Milan, à l'École d'architecture à Manchester, dans l'école à Amsterdam, dans différents départements aussi. C'est ça bien qui est intéressant, pas seulement pour des ingénieurs, mais aussi pour des politistes, des sociologues, des étudiants des médias, etc., et des architectes. Donc, la cartographie des controverses comme application de la Actor Network Theory, de la sociologie de l'acteur réseau, a évolué dans une méthode de recherche qui a été raffinée au cours de différents projets de recherche, dont le plus important et le pionnier a été MACOSPOL, Mapping Controversies on Science for Politics, qui est un projet financé par la Commission européenne. C'est un FP6, non ? 7 ? C'est un FP6 ? 7 ? Et donc, et par la suite de ce projet, où différentes méthodes et outils pour la cartographie ont été mis à point, aujourd'hui, il y a 3 projets en cours dont on va vous parler. Le premier est MEDEA, Mapping Environmental Debates on Adaptation, et le deuxième, c'est IMAPS, Electronic Maps to Assist Public Science. Et il y a un troisième dont on ne va pas vous parler, c'est FORECAST. C'est la formation à la cartographie des controverses pour l'analyse des sciences et des techniques. C'est un très long projet, très vaste projet, pédagogique, mais aussi vraiment de travail à l'interface science-société autour de la cartographie des controverses. Donc, ces domaines, la cartographie des controverses, a fait déjà l'objet de 2 publications, et il y a d'autres à venir qui réfléchissent sur cette méthode, ses implications, sa portée et leurs fondements théoriques qui ont été publiés par Tommaso Venturini, notamment Diving in Magma, How to Explore Controversies with Actor Network Theory, et Building on Faults, How to Represent Controversies with Digital Methods. Donc passons à présenter les 2 projets spécifiquement dont on va vous parler. Et on va parler de ces 2 projets qui portent spécifiquement sur une controverse qui est celle de l'adaptation. Et je vais vous parler pourquoi maintenant Donc voilà, vous avez l'adresse du blog du projet IMAPS. Le projet IMAPS est aussi financé par l'Union européenne, un FP7. Et il y a plusieurs partenaires, 7 partenaires. La spécificité de cet appel répond à un appel d'offres sciences et sociétés, spécifiquement ciblé sur la thématique Science-Society Interaction in the Digital Technologies Era. Donc la focale est vraiment sur les méthodes numériques. Et à la différence, on passe au deuxième. À la différence, le projet français, MEDEA, est financé par l'ANR. Là, vous avez l'adresse du blog. Est financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre de l'appel CEPS, Changements environnementaux, planétaires et sociétés 2011. Donc vraiment là, l'enjeu, c'est de produire de la connaissance sur les controverses qui touchent à l'adaptation, mais aussi de fournir des outils pour l'exploration de ces controverses. autour de l'adaptation, de la vulnérabilité, et la focale est mise surtout en France. Et donc, on va vous parler de ces deux projets qui portent notamment sur l'adaptation. Et donc, l'adaptation, pourquoi l'adaptation ? Donc, j'ai réfléchi, donc je me sens mieux maintenant que j'ai entendu un peu les débats, parce qu'au début, je me suis dit, bon, là, on va arriver, et ça porte sur les sceptiques, et nous, on n'a pas vraiment grand-chose à dire, sauf qu'on s'est posé la question sur quel lien existe-t-il entre la position de certains sceptiques et l'essor de l'adaptation. Est-ce que, par exemple, certains sceptiques appuient, sont en faveur de mener de l'avant une approche d'adaptation en dépit d'une approche de mitigation. Mais au-delà de ça, on n'avait pas beaucoup réfléchi. L'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'essor de l'adaptation est symptomatique de le collapse, l'effondrement, la fin des scepticismes ? Mais sinon, on n'avait pas grand-chose à dire. En tout cas, l'autre chose qui s'est posée comme question, c'est bon, on peut dire que dans la trajectoire du dossier climatique, il y a eu différents moments, une interrogation sur l'existence d'un changement climatique, puis une interrogation et une controverse, un débat sur l'origine du changement climatique, les causes du changement climatique. Et maintenant, on entre dans une nouvelle phase qui semble déjà assez avancée, c'est comment y faire face au changement climatique et à ses impacts. Et donc, la controverse qui émerge, qu'on appelle, nous, controverse au débat autour de l'adaptation, en fait, c'est une controverse autour de quelle place accorder aux deux stratégies des luttes contre le changement climatique, la mitigation et l'adaptation. Donc, grosso modo, l'adaptation n'émerge pas du néant, ne vient pas seule, émerge dans un partage conceptuel et stratégique avec la mitigation. Donc c'est là que beaucoup des questions et des débats vont se poser et que nous voulons interroger. Donc comment est-ce que nous allons interroger ou explorer ces débats ? Donc les deux projets dont on vous a parlé ont un objectif commun. Cet objectif, quelles sont les questions qu'on se pose par rapport à cette question de l'adaptation ? Bon, tout d'abord, comme je vous disais, l'adaptation n'émerge pas du néant. Le concept d'adaptation est très développé. Il était consacré depuis les années 50 dans la biologie évolutive et puis a été reprise par la cultural ecology, l'écologie politique. Et donc, il a hérité d'un biais très structuraliste, très fort, d'expliquer des changements sur un continuum et des adaptations. Donc, pendant très longtemps, le concept d'adaptation a été très marqué par un partage entre nature et culture, où ces partages disaient que bon, finalement, on doit arriver à une sorte de homéostase et que les cultures doivent s'adapter aux limites intrinsèques de la nature. Cette vision avec le cultural turn de la géographie culturelle, qui a commencé à prêter beaucoup plus d'attention aux aspects de la culture, et remet en question ce partage, et on commence à voir d'autres études qui voient la construction sociale de la nature, etc. Donc il y a toute une évolution de l'adaptation. Alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe avec l'adaptation lorsque ce concept rencontre le changement climatique ? Et à l'envers, on peut s'interroger qu'est-ce qu'il arrive au dossier du changement climatique lorsque l'adaptation arrive en haut de l'agenda ? Qu'est-ce qui se passe avec la focale sur l'adaptation, avec tous les autres débats ? Comment les débats vont être recadrés ? Donc, c'est une question qui nous intéresse d'explorer, c'est concurrence des cadrages, qui sont les acteurs qui portent différents cadrages et qui vont faire émerger l'adaptation comme enjeu face à celui qui était bien établi, qui était de la mitigation et la lutte, la réduction des gaz à effet de serre. Donc, ce que nous voulons explorer, c'est précisément les arguments qui sont utilisés, par qui, comment ils sont distribués entre les acteurs, et justement, suivant un peu la remarque de Nathalie, effectivement, on sait très bien que ces arguments ne sont pas distribués de façon dichotomique, en opposition, comme deux armées qui s'affrontent sur un territoire, sur une plaine. Mais évidemment, il y a des alliances, des combinaisons et des nuances qu'il faut explorer. Donc, voilà comment ces arguments se sont transformés au fil du temps. Et comment le défi, parce que finalement l'adaptation effectivement c'est une solution, c'est une approche comme une solution à un problème qui est le changement climatique et ses impacts, mais il devient aussi une injunction, un impératif, une exhortation. C'est maintenant, il faut s'adapter, adapt now, c'était le résultat d'une étude de 2009 de Paris je crois, qui mettait bien clair cet impératif, et adapt now, c'est un peu adapt or die. Et ça résonne aussi avec toutes ces réflexions sur Diamond et effondrement, Jared Diamond. Et donc, comment cet impératif politique, ces défis, devient aussi un problème? Qu'est-ce que c'est qu'être adapté? Comment est-ce qu'on mesure le niveau d'adaptation, la capacité d'adaptation? Bon, donc, quels sont les effets politiques des différents cadrages qui vont émerger? L'adaptation va apparaître comme liée au développement. Donc, associés aux pays en développement, sont celui qui vont porter l'adaptation. Mais qu'est-ce qui se passe avec les pays développés? Sont-ils invulnérables? Qu'est-ce que c'est que l'adaptation pensée dans les pays développés? Et bon, donc, finalement, la question de la connaissance. En quoi l'entrée de l'adaptation dans les dossiers climatiques transforme les domaines disciplinaires qui ont été considérés comme les plus influents, les plus pertinents pour donner des réponses aux questions politiques, dans les liens en sciences politiques. Et cette question, un peu, l'autre jour, ça résonne très bien avec la présentation d'Hélène. Nous-mêmes, on le voit parce que dans notre équipe, on a des géographes, notamment à l'IDRI, et on a aussi des climatologues à l'LSE, dans nos partenaires à MEDEA. Et il y a eu des discussions très, très intenses sur qui étaient les plus... qui n'avaient plus la légitimité de parler sur le sujet de l'adaptation, qui ont mené à des débats très intenses. Donc je pense un peu, c'est « the revenge of geographers », l'adaptation. C'est un peu comment les géographes vont maintenant dire « ok, c'est maintenant qu'il y en a quelque chose à dire ». On va explorer toute la reconfiguration de ces réseaux. Et voilà. Donc pour cela, on va développer une plateforme qui est un atlas de différentes cartes qui vise à traiter comment présenter, explorer toute cette complexité des questions qui se déploient à plusieurs niveaux en plus, parce qu'il y a la question des échelles temporelles et spatiales qui sont centrales à l'adaptation, et comment déployer toute cette complexité et la rendre lisible, non seulement pour un public des profins, on ne pense pas seulement aux médias, on pense aussi aux décideurs, on pense aux personnes impliquées, aux gens des agences de l'eau qui s'intéressent à connaître les positions des autres acteurs concernés, par exemple des syndicats des rivières, des habitants, des utilisateurs de l'eau, par exemple avec les questions de raréfaction de l'eau qui résultat des impacts du changement climatique, et comment est-ce qu'on va décider des utilisations concurrentes de l'eau. Donc voilà, il y a des tas de personnes qui sont concernées par ces questions, et donc on pense développer un outil qui est basé sur le web et qui n'est aucunement un autre forum des débats. Sa fonction est différente, c'est de permettre d'explorer les différents points de vue, donc de multiplier les entrées par différents acteurs à cette question. Donc l'objectif, là on voit que notre objectif c'est aussi d'analyser et de rendre visibles les points de vue, les alliances et les oppositions dans les arguments de la manière la plus subtile possible, et en même temps de le faire avec tous les acteurs impliqués dans les débats d'adaptation. C'est un objectif très ambitieux qui nous mène à une contradiction essentielle dans la cartographie des controverses. C'est celle de la richesse et de la simplification, celle de la subtilité et la précision de méthodes qualitatives et celle de l'ambition d'enquêter sur une globalité avec des méthodes de type quantitatif. Donc la question qui se pose, c'est comment on va résoudre ces deux tensions. Donc la réponse, c'est en multipliant les cartes. On va résoudre cette question de la richesse, on va essayer, c'est tout un défi, de pouvoir communiquer quelque chose, pas dans le sens de public understanding of science, mais de pouvoir transmettre, de pouvoir permettre de saisir, de réduire en partie la complexité, sans entrer dans une espèce de démagogie de la simplicité, comme disait Valérie Masson-Delmotte dans un article. Donc il s'agit d'essayer de présenter de la manière la plus nuancée ces enjeux. Et donc, la façon de le faire, c'est de suivre les traces digitales, heureusement aujourd'hui, les traces numériques, pardon, et qui sont laissées dans un terrain très particulier qui nous inquiétons. C'est le terrain du web. Le web n'est pas seulement un objet, mais c'est un domaine où les acteurs s'expriment. Cela pose des tas de questions sur quelles sont les spécificités de ces terrains. Je crois qu'on pourrait revenir après dans les débats, dans les questions sur les spécificités de ces terrains. Donc, cet atlas présente différentes cartes qui adressent différentes questions. Quels sont les enjeux? Which are the issues? Donc là, il s'agit de passer des énoncés flottants qui peuvent s'affronter, des opinions différentes, à un vrai débat structuré, différents niveaux de débat. Et là, on va présenter visuellement ça à partir d'une stratégie qui est ce qu'on appelle l'arbre du désaccord, the tree of disagreement, qui en fait ressemble beaucoup plus à un rhizome, donc parce que la forme n'est pas arborescente, mais plutôt rhizomatique. Et après, on adresse une deuxième carte, cette carte se combine et se compose finalement dans l'atlas, c'est qui porte ces énoncés et qui débat, qui discute avec qui. Qui sont les personnes qui vont débattre et qui sont les personnes qui vont ne pas s'adresser la parole, même pas. Donc, comment sont les positions des acteurs? Donc, on va lier les arguments aux des acteurs. Puis, on va passer à comment ces acteurs se connectent les uns aux autres pour finalement constituer un réseau. Et donc, une fois qu'on a un réseau, on va pouvoir voir un panorama beaucoup plus vaste des lieux, des espaces et des échelles des débats, où on va pouvoir cibler différents niveaux d'abstraction et des précisions des questions, c'est-à-dire des méta-controverses et des sub-controverses spécifiques qui se déploient. Donc finalement, tout cela, évidemment, on le sait, et varie dans le temps. Les dossiers, comme le montre très bien Château-Renault, et en cela, ces travaux sont très intéressants, suivent une trajectoire, il y a une balistique qui passe par différents moments, et les dossiers peuvent dormir, se réveiller, atteindre un pic, susciter de l'attention à partir des associations avec d'autres dossiers, etc. Donc il s'agit de suivre le changement des positions des acteurs, les variations des arguments, et les variations d'arène, etc. Donc ça, c'est la carte la plus complexe et la dernière. Donc, et voilà, première tâche, c'est donc de repérer quels sont les énoncés. Et donc, ça, c'est un exemple d'un arbre de désaccord qui a été fait par les étudiants des Sciences Po dans les travaux des controverses. Et ici, ça porte sur la fertilisation des océans, des débats autour de fertiliser les océans pour attraper du CO2. Donc, c'est un exemple des visualisations. Ce qui est intéressant, le bénéfice des dispositifs web, c'est qu'ils sont assez interactifs, on peut explorer et avec le mouse toucher et voir différentes combinaisons et variations. Donc comment est-ce que nous, on va se prendre à cette question de repérer les différents discours? Bon, pour cela, et en discussion avec nos collègues de l'IDRI, on a trouvé, le grand problème, c'est comment constituer des corpus, des corpora. Et lorsque on doit utiliser des outils d'analyse, tant numériques que humains, enfin, étant nous les analystes, finalement. Et donc, nos collègues de l'IDRI nous ont recommandé d'aller regarder le Earth Negotiations Bulletin. L'Earth Negotiations Bulletin est publié par l'International Institute of Sustainable Development et depuis 1995, depuis la conférence de Rio, suit les processus des négociations autour des différents instruments de gouvernance internationale du développement durable, du changement climatique et de la biodiversité. Donc, c'est une des sources les plus fiables qui a des comptes rendus de tout ce qui se passe dans les négociations, les conférences et les instruments internationaux. Même, il y a une section dans ces reports, dans ces comptes rendus, qui s'appelle In Corridors, où il témoigne de tout ce qui est off et qu'on ne voit pas dans les documents officiels. Donc, notre corpus porte précisément sur le volume 12, et qui porte sur la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, et est constitué des 600 issues, et qui couvre tout le processus des négociations depuis 1995, commençant par la première COP, mais pas seulement évidemment les COP, mais les réunions du SAPSTA, et la réunion technique, etc., des différents organismes et qui constituent le processus de l'UNFCCC. Donc, ces documents, heureusement, sont en PDF et en format HTML. donc numériques, et peuvent être analysées avec des outils qui permettent l'analyse textuelle des grands corpus et qui permettent de tracer et des entités, les identifier, les suivre et faire des analyses des réseaux, des co-occurrences de mots, des techniques assez précises que Tommaso va peut-être préciser plus après. Mais ces corpus nous permettent de suivre les débats et d'identifier les arguments. La difficulté de cela, c'est que c'est un compte rendu. Donc c'est comme un roman où il y a un narrateur qui nous raconte ce que les acteurs font. C'est pas comme une pièce de théâtre où on a un Hamlet dit ta 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 et lui répondent ta 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 ta. Donc c'est difficile d'attribuer un énoncé à un acteur. Mais heureusement, on peut découvrir des formules spécifiques dans ce document. Par exemple, la Chine, en représentation du groupe de 77, s'est opposée à telle mesure, etc. Donc grâce à cette formulation qui est toujours constante, on peut découvrir les alliances et on peut découvrir les énoncés, les arguments qui sont avancés par chacun. Donc voilà, l'avantage c'est qu'il y a des synthèses et qu'il y a des daily reports, donc on a le jour à jour des négociations. Donc voilà, en ce qui concerne les négociations internationales de tout le processus climatique, c'est un bon corpus. Notre deuxième corpus, c'est celui des rapports de l'IPCC, et qui sont tous disponibles en ligne, tous en format PDF, et donc on peut aussi les analyser avec des outils automatiques de traitement de texte, mais aussi on est en train de faire un travail assez âpre avec nos collègues, qui est de créer une base des données le plus complète possible de tous les auteurs, leading contributor authors, contributors, reviewers, etc., avec leur attachement institutionnel et le rôle qu'ils ont joué, dans quel chapitre, dans quel working group. Donc, pour chaque working group, on a des milliers d'auteurs et on a des tableaux Excel avec tout leur attachement. Donc, avec cela, ce qu'on va faire, c'est analyser les dynamiques institutionnelles et disciplinaires dans les différents chapitres, voir comment l'adaptation émerge dans les rapports de l'IPCC. C'est-à-dire que, et par exemple, s'ils ont été ramenés de la main de certains auteurs géographes, comment a évolué du rapport 1 au rapport 5, et cibler les différentes questions, des évolutions des questions. Évidemment, tout cela va être complété par d'autres analyses des corpus qu'on va présenter tout de suite avec Thomas, qui je lui donne la parole. Merci.
Donc, le deuxième niveau d'analyse de la cartographie des controverses, de cet atlas de description de la controverse sur l'adaptation au changement climatique, c'est justement vise à reconnecter les énoncés avec les acteurs qui les portent. Donc, on a déjà vu avec l'exemple de l'IPCC, le corpus de l'IPCC, qu'il est très important non seulement d'aller lire les arguments qui sont utilisés dans l'IPCC, mais aussi d'aller voir qui sont les auteurs de ces arguments-là et comment on peut établir un lien entre qui porte une certaine énoncé et l'énoncé lui-même. Les acteurs des controverses, puisque la cartographie controverse, comme Nicolas l'a très bien dit, vient de la théorie de l'acteur réseau, sont les plus variés. Il n'y a pas que des acteurs individuels, il y a aussi des acteurs collectifs, comme par exemple des laboratoires scientifiques ou des institutions ou des entreprises, mais il y a aussi des acteurs non humains, comme par exemple certaines théories qui peuvent jouer un rôle actoriel d'agent dans une controverse, ou encore des éléments naturels, ou encore des lois, par exemple, et les modèles aussi. Et nous, notre objectif, c'est justement d'être capable de déployer cette richesse d'acteurs et les reconnecter à leur discours. Donc là, par exemple, c'est un exemple toujours venant d'un des sites réalisés par nos étudiants en Sciences Po. Là, c'est sous la controverse des algues vertes. Et vous avez une liste d'acteurs, c'est un tableau dans lequel vous avez une liste d'acteurs sur la première ligne du tableau. Et après, les différentes positions qu'ils prennent sur les différentes questions connectées aux algues vertes. Et malheureusement, on est en PowerPoint, donc il n'est pas interactif, mais si on était sur Internet, et vous pouvez y aller parce que vous avez l'URL, si on passe la souris sur un des acteurs, ben on verra, sa position va s'allumer dans le tableau, et on pourra comparer les différentes positions des différents acteurs. Pour ce qui est de IMAPS et MEDEA, pour faire ces genres de repérage des acteurs et de leurs arguments, on va s'appuyer sur un autre corpus encore, qui est celui-ci assez classique de la scintométrie et de la littérature scientifique. Bon, pour cela, on va notamment utiliser deux répertoires scintométriques qui sont Scopus et Easy Web of Science, qui sont deux bases de données bibliométriques très, très connues et un peu en compétition l'un avec l'autre. Et on a extrait avec la query, la requête que vous voyez en bas, qui est Climate Change or Global Warming and Adapt or Vulnerable or Resilient, pour essayer de prendre le plus possible, d'avoir un corpus d'articles scientifiques le plus large possible, mais centré sur les questions qui nous intéressent. Donc, on a interrogé avec cette même requête à la fois Scopus et Easy Web of Science, et on a sorti à peu près 10 600 notices bibliographiques de l'Easy Web of Knowledge de 1992 à 2012 et 14 000 notices bibliographiques de Scopus de 1991 à 2013. Donc maintenant, on commence à analyser cette énorme base de données, ces deux énormes bases de données, qui sont très riches parce que même si on n'a pas le full texte des articles scientifiques, on a quand même plein d'informations sur les auteurs, leur affiliation, leurs sponsors, et aussi, ce qui est très important, les références. C'est-à-dire, pour chaque article, on sait quels sont les autres articles qui sont cités par ces articles-là, ce qui nous permet de faire, on le verra tout à l'heure, des études de co-citation. Donc là, c'est juste un résultat très, très préliminaire qu'on a obtenu en utilisant un logiciel qui a été développé, non pas au Media Lab, mais à l'IFRIS. Et là, ce que vous voyez, c'est un peu difficile à lire parce que le projecteur ne vous montre pas bien les couleurs, mais c'est un réseau des co-occurrences des pays et des revues. Donc là, vous voyez les différentes revues dans lesquelles les articles sont publiés et quels pays publient les plus dans chaque revue. Et puis, ce que vous voyez pas trop, c'est qu'il y a aussi des clusters, donc un code couleur qui vous montre qu'il y a certains groupes de copublications, donc certains pays s'intéressent plutôt à certaines parties de la question de l'adaptation, et du coup ils publient plus dans certaines revues, alors que d'autres pays se concentrent plutôt sur autre chose, certains sont plus concentrés sur les questions écologie, par exemple, alors que d'autres s'intéressent plus à la question climatologique, et ainsi de suite. Le deuxième corpus qu'on va utiliser sur cette question des acteurs et de leurs arguments, c'est le corpus des position papers qui ont été soumis à la conférence cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Donc, comme vous le savez probablement, sur le site de la conférence cadre, vous avez une base de données de tous les documents qui sont utilisés dans la négociation. Donc, il y a les décisions, par exemple, pris dans les différentes COP. Ce n'est pas du tout le rapport de ce qui s'est passé comme le Earth Negotiation Bulletin qu'on vient de voir. Là, c'est vraiment les documents officiels. Et parmi les documents officiels, il y a les position papers. C'est-à-dire là où, effectivement, on a un peu, comme Nicolas faisait l'exemple, utilisait la métaphore du théâtre et du roman, là, on est plutôt dans le théâtre. Là, c'est plutôt l'Italie, j'en sais rien, ou la France, qui prend la parole et qui soumet un position paper. Donc, cela est très, bien sûr, c'est très bien pour nous pour pouvoir rattacher les différents pays, les différents acteurs. Il n'y a pas que les pays, il y a aussi les ONG, par exemple, qui soumettent des position papers ou les entreprises. Et ça, on peut effectivement l'interroger. Donc, on a cherché tous les documents, on a récupéré tous les documents qui étaient tagués comme « Meeting Documents Submission by Partisan Organization ». Il n'y en a pas énormément, ils sont juste 839 position papers qu'on commence à exploiter. Le troisième corpus, c'est la base de données constituée par un site qui s'appelle weadapt.org, qui est un site très intéressant parce qu'il constitue la communauté des professionnels, la plus grande communauté en ligne des professionnels de l'adaptation. Donc, c'est un site qui a été lancé il y a quelques années pour servir un peu d'espace de rencontre en ligne pour les professionnels de l'adaptation. Du coup, cette site-là raconte tous les projets sur l'adaptation, disons, une partie très importante des projets sur l'adaptation, et plusieurs centaines, même milliers d'articles qui sont écrits par des professionnels de l'adaptation. grâce à un partnership qu'on a pu passer avec weadapt.org, on a récupéré l'entière base de données du site qui contient, entre autres, tous les auteurs qui ont publié dans le site, toutes les initiatives dans lesquelles ils sont divisés, et tous les projets et tous les tags qui ont été attribués sur les différents, aux différents articles, aux différents projets. Ce qui nous permet, par exemple, de voir quelles organisations travaillent ensemble, quels professionnels travaillent ensemble, et sur quelles questions, via les tags qui eux-mêmes ont mis sur leurs articles, sur leurs projets. Voilà, c'est juste pour le moment, c'est juste un proof of concept. On n'a pas encore commencé à travailler sur cette base de données-là. Mais l'idée, effectivement, c'est de désigner des réseaux de ce type-là dans lesquels on va connecter les associations, les organisations, par le fait qu'ils partagent des tags, par exemple, ou des projets. Le troisième niveau de notre atlas, c'est porte sur la question de comment les acteurs sont connectés. Donc, maintenant, on a reconnecté les acteurs à leur argument, mais on veut aussi savoir comment les acteurs sont connectés les uns aux autres par des multiples relations de types très différents. Et pour cela aussi, on a besoin de... Là, c'est un exemple, par exemple, des travaux d'étudiants de cours de cartographie controversée à Sciences Po sur les statistiques ethniques. Je passe assez vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Il est plus intéressant, je pense, pour vous de vous donner une idée des genres de traces qu'on va utiliser pour des proxies qu'on va utiliser pour savoir qui est connecté à qui et avec quel type de relation. Donc, un premier type de relation très intéressant, bien évidemment, et très, très concret, c'est les flux des financements. Donc, qui a financé, quel pays a financé, quel fonds d'adaptation et quel fonds d'adaptation a financé quel projet. Heureusement pour nous, le travail de récolte de ces informations-là a déjà été fait par un site qui s'appelle Climate Finance Update, que je vous conseille de visiter, qui est une initiative de l'Henrik Bolsting Fund Center et de l'Overseas Development Institute, et qui, depuis 2003, chaque deux mois, publie des données très riches sur la finance de l'adaptation, données qui viennent des websites des différents fonds d'adaptation, du reporting aux institutions internationales, des presse de release, et ainsi de suite. Donc, eux, ils font vraiment le travail de raconter toutes ces informations-là, de les traiter, de les transformer dans une base de données, de chiffres, de données, qu'on peut facilement utiliser, où on a tout un tas d'informations sur qui finance qui, quel type de projet, combien d'argent a été promis, combien d'argent a été effectivement donné, combien d'argent a été dépensé, et ainsi de suite. Deuxième type de lien qu'on va explorer, c'est aussi un grand classique des outils du Media Lab, c'est la cartographie du web. Donc là, on va exploiter les hyperliens, les hyperlinks, comme trace, comme proxy, de la connexion entre les acteurs. Ce que vous voyez là, c'est un premier test qu'on a fait dans le cadre du projet IMAPS, où on a pris tout. Ce que vous voyez là, c'est un graphe, c'est un énorme graphe, pas si grand que ça, en fait, qui contient toutes les pages de Wikipédia qui traitent du changement climatique. Et puis ces pages-là sont la taille des nœuds, c'est-à-dire la taille des points que vous voyez dans l'image, dépend de leur controversialité. On a développé un indicateur de controversialité qui est basé sur combien de fois dans un article Wikipédia quelqu'un a changé quelque chose et puis quelqu'un l'a changé arrière, ce qu'on appelle un revert war. Et donc, et les couleurs dépendent donc on a coloré les nœuds selon les trois sous-controverses du changement climatique, donc la mitigation, l'existence et l'adaptation. On voit bien que l'adaptation est toute petite, c'est les points verts qui sont là. Donc il y a moins de pages, elles sont généralement un peu moins controversées que les pages rouges, donc qui partent sous là, qui sont de l'existence et de l'attribution. Là, vous, pour ceux qui sont dans les premières files, vous arrivez peut-être à lire quelqu'un des nombres de pages, mais j'ai aussi un zoom sur les questions de l'adaptation. Et si vous regardez ces zooms-là, vous voyez que les questions, pour ce qui concerne l'adaptation, les questions les plus controversées dans Wikipédia sont les cyclones tropicales, le sea level rise, la montée des niveaux de la mer, les effets du global warming, les effets régionaux du global warming, et ainsi de suite. Et surtout les impacts. Une autre, et là je vais passer très vite parce que j'ai déjà montré ce genre de cartes, une autre trace de connexion sont bien sûr les hyperliens, on l'a vu, mais c'est aussi les citations dans les textes scientifiques. Là, c'est vraiment une analyse classique de co-citation. Et là, par exemple, c'est une carte qui fait exactement ça et qui connecte des, institutions, oui, c'est des institutions scientifiques qui sont connectées, donc il y a un lien entre deux institutions scientifiques s'ils ont co-publié, ces deux individus sortant des deux institutions ont co-publié ensemble. Donc là, on retrouve aussi quatre clusters que je ne vais pas commenter parce qu'on n'a pas le temps. Et finalement, un dernier corpus assez marrant, assez drôle qu'on espère pouvoir exploiter, c'est les side events de la conférence des COP sur de la conférence sur le conférence cadre sur le changement climatique, parce que on cherchait une trace de fait d'être allié de l'alliance entre deux pays, et le fait de participer au même débat à l'intérieur de COP n'est pas forcément une bonne trace, parce qu'on peut aussi participer au même sous-débat parce qu'on s'oppose, et donc on veut être dans la même salle pour pouvoir s'opposer. Par contre, le fait d'organiser ensemble un side event est probablement un très bon indicateur du fait qu'il y a une alliance entre deux pays ou deux institutions. Parce que normalement, on ne co-organise pas des side events avec nos ennemis. On tente plutôt le faire avec nos amis. Donc, ça, c'est une autre chose qu'on va explorer. Le quatrième et avant-dernier niveau qu'on va étudier, c'est la question de cosmos. Donc, je vais parler trop orienté dans la question philosophique, mais qui est quand même assez importante, de la différence entre réseau et cosmos. Mais ce qui est important, le plus important, c'est d'être capable de retracer l'échelle de la controverse. C'est-à-dire, n'importe quel sujet on choisit d'étudier, dans notre cas, c'est l'adaptation, il faut toujours savoir que n'importe quel sujet de controverse est toujours parti de plusieurs méta-controverses plus larges, et à son intérieur, il y a toujours des sous-controverses plus petites. Là, par exemple, vous voyez l'exemple de l'hypersensibilité aux ondes électromagnétiques, encore un exemple d'étudiant, et cette sorte de gâteau de mariage que vous voyez là montre effectivement quelles sont les sous-controverses et les méta-controverses autour et à l'intérieur de cette controverse. Pour cela, nous, pour pouvoir descendre à l'échelle, grâce aussi au fait qu'on a, on a eu beaucoup de chance d'avoir deux projets de recherche, un financé par l'Europe, donc à l'échelle globale, et un autre financé par l'ANR, donc plutôt à l'échelle française. Donc, on va pouvoir descendre à l'échelle. Donc, on va traiter en général la question de l'adaptation avec les corpus qu'on a vus jusque-là, qui sont des corpus très globales et très, très larges, mais on va pouvoir aussi zoomer sur cette question très précise. Donc, pour cela, par exemple, on a lancé une collaboration avec un autre projet financé par l'ANR qui s'appelle Cocorisco, qui porte sur la question de la gestion de risques côtiers en Bretagne, ce qui nous permettra de zoomer la question, par exemple, de sea level rise, de comment elle est traitée dans les grandes assises internationales jusqu'à vraiment la gestion du risque côtier en Bretagne. Et puis la dernière et la plus difficile étape, c'est justement la dynamique. Donc, capable de montrer que chacun des cartes dont j'ai parlé, ce n'est qu'un snapshot d'une situation qui évolue et qui évolue très vite. Et voilà, donc, par exemple, ça c'est un exemple toujours d'étudiants sur la controverse du garde d'asile. Et là, c'est le plus difficile, donc c'est aussi la chose qu'on va faire à la fin, mais on a déjà commencé à faire des petits tests. Là, c'est toujours un résultat qui vient du très intéressant outil Cortex d'Elifris sur le corpus Easy Web of Science de 5000 publications scientifiques. Là, vous voyez, vous n'arrivez pas du tout à lire, mais là, c'est un 5 diagramme qui montre comment les différents groupes de mots-clés, clusters de mots-clés, ont évolué dans le temps. Et il y a certains clusters de mots-clés, comme le premier en bleu que vous voyez tout en haut, qui n'évoluent pas beaucoup. Certains mots disparaissent et d'autres sont rajoutés. Mais grosso modo, le cluster reste pendant toute la période. Et il y a d'autres, par exemple, sur la partie vers le fond, où on voit qu'il y a des croisements, on voit qu'il y a des changements. C'est important. Bon, là, c'est juste... C'est très, très, très préliminaire, tout cela, mais c'est le genre de choses sur lesquelles on va travailler dans les prochains mois et dans les prochaines années. Je n'ai pas du tout le temps de rentrer dans les outils, mais voilà, juste pour vous donner un flash, ça, c'est l'écosystème des outils qu'on utilise au Media Lab pour faire ce genre d'analyse-là. Merci beaucoup.
Smul. On m'a invité parce que je suis un collègue de Stéphane, Centre Coeré, où j'étais. J'ai fait ma thèse là-bas avec Amidaan, sous la direction d'Amidaan. Et je me suis intéressé aux questions de l'environnement global et des images environnementales. Et alors c'est dans cette fonction-là que je vais parler ici. Je vais peut-être parler en anglais, parce que j'ai préparé mes commentaires en anglais. Ça va être traductrice aussi, pour changer. Alors, so it will come, therefore, without surprise to you that the following brief reflections and questions touch mainly upon visual aspects of your presentation. And I'm sure we will have other follow-up questions from the audience that will engage in more detail and much better than I could propose the actual climate adaptation and controversy question. So how to get this discussion started? I would like to invite you to comment in more detail on basically two methodological aspects of your mapping project. I would like you to consider the key metaphors which are deployed in basically all of the different mapping projects you described, as well as the power and constraints visualization technologies impose on the way we may describe the world. So there are, in my eyes, at least two aspects to this large problematic complex. First of all, as we know from many case studies in history of science, as well as science studies, technologies and visualization technologies in particular often produce effects far beyond their initially assigned use. For example, you may think of the famous Earth photographs taken from outer space, which environmental historians attribute nowadays to an important rise of environmental awareness during the late 1960s and early 1970s. Practically all of those photographs were serendipitous, contingent side products of the Cold War race to the moon and its immediate aftermath. So it is, in other words, often at the margins of techno-scientific systems that new knowledge is produced and new insights are gained. So serendipity, la serendipité, is the central concept of this productive struggle at the margins of technoscience, and it seems to me to be a central element of the mapping projects described. As you insist, at every preliminary stage of the project, one does actually not know where the mapping will lead. The end product, the new knowledge, which you hope to generate, stays, first of all, opaque and sort of hidden. I shall come back to that point. And the second point is, this is maybe equally important, but maybe a bit more complicated. The visual order imposes in a certain way how we describe the world. Now, visualization technologies transport, so to speak, a certain logic, fixing the boundaries of what can be said and what can be not said, of what can be seen and not seen, of course. So here again, one could name literally hundreds of case studies in which this aspect becomes very apparent. One of the more famous ones being probably Charles Darwin and the introduction of the coral, la corail, as a visual metaphor of evolution. The Darwinian case study basically shows that when analyzing the drawings Darwin made in his notes of the origin of the species, one cannot ignore the fact that his sketches actually explain why he rejected the interpretation of evolution as a linear process. So in abandoning the tree trunk, the dominant central visual metaphor of evolution before his time, and by substituting it with the coral, Darwin was able to describe evolution as a process with several timelines. And one particular advantage of his choice of the coral as a leading visual metaphor was that dead parts of the coral, on which the living coral nevertheless can grow, may be understood as extinct species from which the living ones descend. So my question basically is, which implications may these insights from science studies and the study of visual culture have within your mapping project? In your presentation, you said that the mapping of controversies takes its initial inspiration from the Porphyrian tree, as, for example, the tree of disagreement, often used in the first mapping stage. Yet once put into practice, the resulting maps resemble much more rhizomes than a tree. One of my questions would therefore be if this shift you described from the Porphyrian tree to the rhizome is an unintended effect of the of the visualization technology deployed, or in a more general way, one could also ask, since you have quite some experience with the mapping technologies now, which other unanticipated effects showed up in your work? In any case, the shift from the tree to the rhizome, and that will be the visual metaphor argument, does not come without a price or impact. So in Mille Plateaux, Gilles Deleuze and Félix Guattari defined the rhizome as something that, I quote, has no beginning nor end. It is always in the middle, between things, inter être, intermezzo. As they continue, the tree is filiation, but the rhizome is alliance, solely alliance. So with this definition in mind, one might sense maybe better why the rhizome was chosen as the most appropriate visual metaphor for actor network theory, of course, a suitable visual model allowing for enough heterogeneous connections, or better, alliances, and non-hierarchical order, as well as a constant flexibility on the margins, a logic which the tree model, by definition, does not provide. You see, the core of my question is basically this: what are the ontologies behind the mapping of controversies? What are the implicit and explicit constraints imposed upon, yet also the possibilities opened up for the choices of certain forms of visualization, leading to metaphors like rhizomes, tree of disagreement, and cartography in general? So in particular, when we ask if the mapping metaphor, the flat plane, or the rhizome are adequate models for representing the world. After all, hierarchies, scales, are only few of the blind spots that might be worthwhile considering. Aspects of rhizome can't really include, actually, by definition. So I'm aware that these questions might lead maybe a bit far, but nevertheless, you might have some ideas how to tackle these. Thank you.
Thank you. It's a really interesting question. Thank you for asking it. And a very difficult one. I think that the leading metaphor, which is the leading visual metaphor, which is even, I mean, it is even worse, is even more than a metaphor, is the one of the network. We do work, even if we use the word tree or rhizome. In fact, most of the visualization we showed are networks. And even those were not, doesn't look like network, in fact, are based on network data. But that's why I'm saying it's even worse than just, because we are, this is certainly not necessarily a problem, but something that we have to take into consideration. That controversy mapping, at least the way we do it in Sciences Po, which is not necessarily the only way it can be done, relies a lot upon networks. The data that we collect are almost immediately transformed into network. First, through relational databases, which are databases that use the metaphor of networks to work. And then because we use network analysis to analyze them. And then because we also use networks to visualize most of the phenomena that we are looking for. The reason why we are so fond of network is triple, but I will be very quick. The first one is that networks brings together three advantages. Networks are tools of computation, they're graph, so you can use graph mathematics, which are very powerful mathematics that can allow us to do a lot of interesting analysis. Networks are maps, they have a visual, they can be visually represented, and they can be read as if they were geographical map. I will not enter into detail, but in a map treated the way we treat it, two nodes are close if they are actually close. I mean, they are close in the space if they are directly or indirectly connected. And the third thing is that networks are tools of data manipulation. Thanks to a new generation of network analysis tools, like Gephi, for example, that we developed, not only by the Media Lab, but also by the Media Lab, we can use network visualization to manipulate data and to explore and to try to achieve that serendipity you mentioned. So these are the three advantages. If you put them together, you see why networks are so powerful and why we like them so much. At the same time, they also have blind spots. For example, they're very bad for dynamic. The dynamic network are still under research, I mean, even at a mathematical level. So we still have very few tools to work with dynamic networks. They are bad for precise, as you said, to work with hierarchies, because even if we have the concept of grouping nodes and grouping links and classes and stuff like that, it poses more problems than they resolve. And there are many other, problems. So it's true that that at least so far we have been very dependent on this. The network visualization and mathematical tool. But at least we are trying to be as aware as possible of the limits in order to be able to sort of complement this analysis with other type of analysis that relies less or not at all on network. And that's why something that very important that Nicolas said is that controversy mapping is never about delivering one map. Delivering one atlas, and it's by the multiplication of maps and tools and analytical tools that we can hope to sort of overcome part of this problem. But I have to admit that we haven't done enough yet.
Hello. Yeah, there. It takes some time. Maps are also war machines, so it's very important the politics, the ontological politics upon which we rely. This issue of hierarchies is an important question. In maps, you can recognize hierarchies because you have, like, in geographical maps, you have highways and routes and little roads, and you have big towns and little towns. So in our maps also, you have nodes of different size, you have colors, you have a full language that helps you describe that. But of course, if you think on the ontology of the network, as Dominique always says, the world is not flat and stuff. Nevertheless, we can show how certain asymmetries and power issues emerge. And one important map is the map of scales. When we present controversies at different scales, somehow we try to specify which power relations are specific of each level or of each controversy. I mean, I'm very attentive to this thing. There are certain power phenomena that are specific to a certain level and that does not go at the micro level. So those are issues that we need to address on cartography. Yeah.
Bonjour. C'est pas toujours facile, bien sûr, de commenter quelque chose qui est une méthodologie sans voir les résultats, mais c'est pas du tout une critique, ça. Simplement, j'ai envie de réagir sur un point. En gros, vous me connaissez pas, mais bon, j'ai été Condemning Lee Daughter au GIEC deux fois. J'ai participé quatre fois, donc je connais à peu près cette mécanique. Et j'ai participé à une question climat pendant 8 ans, donc je vois très bien ça. Mais deuxièmement, j'étais convaincu par un gars qui est au Québec, qui s'appelle Jean Grasse, qui de travailler un peu dans ce genre d'approche. Et donc, je travaille avec une des étudiantes pour faire la même chose sur la cartographie des controverses en matière économique. Comme je suis économiste, je le fais sur l'économie. Et on a commencé à avoir des résultats. J'ai vu des maps et des networks. Alors, premièrement, moi, je trouve que c'est très utile et c'est passionnant et il faut continuer. Et mes remarques, c'est pour dire, quand même, moi, j'ai vu quelques dangers, risques qui émergent. Vous savez, il y avait un économiste qui s'appelait John Robinson qui a dit qu'il faut se méfier de la tentation de la carte à l'échelle 1 parce qu'elle ne sait rien. Donc, elle ne sert à rien. Parce que, bon, et on voit bien que très vite, vous êtes dans une grande prolifération. On l'a été aussi avec cette jeune étudiante. Très, très vite. J'en ai tiré la conclusion suivante. Un, il faut très vite lier et nommer de façon beaucoup plus explicite les questions que l'on traite. Les questions qu'on traite et les problématiques ne peuvent pas être dans votre carte. Elles doivent être légitimées en dehors de la carte. Si j'en viens, par exemple, à l'affaire de la datation, qui me paraît la pire de toutes, parce que c'est très compliqué, c'est tout et n'importe quoi, ce qui n'est pas du mépris, c'est que c'est, on peut parler de tout et de n'importe quoi, ce qui est plus que sur la mitigation, où c'est plus ciblé. Quoi. Par exemple, c'est peut-être pas une bonne idée, mais moi, ayant vu ce qui se passe au GIEC, j'aimerais savoir dans quelle mesure les rhétoriques employées en termes de coût-bénéfice, en emploiant les mots coût et bénéfice ou pas, ont joué un rôle, comment elles sont reprises et à quel moment. Moi, je peux raconter, je ne vais pas le faire maintenant, comment ça s'est passé dans le GIEC, mais par exemple, là, vous voyez, moi j'ai, en titre personnel, une question qui, à mon avis, serait un opérateur de réduction dans cette tendance à la prolifération. Donc ça, je crois que c'est très important de penser à ça. Et la troisième chose qui est très importante, à mon avis, c'est de confronter ça avec des acteurs praticiens qui connaissent de l'intérieur ça, pour une raison très simple. Il y en a beaucoup de raisons, mais je vous en donne une qui m'était convaincu avec ce travail, c'est qu'il y a un délai très important entre le moment où la controverse a vraiment un rôle, parce qu'elle joue dans un point de bifurcation, et le moment où c'est publié. En général, quand vous avez le pic de publication, c'est trop tard. Enfin, les choses importantes se sont passées 4-5 ans avant. Donc ça veut dire qu'il faut doubler ce que vous avez fait d'une enquête pour vous dire, moi j'ai eu ce cas sur un document central qui n'apparaît pas dans ce genre de choses. Mais ça, vous ne pouvez pas le faire comme ça. Voilà, donc c'est trois remarques liées à une expérience que je suis en train de mener avec cette... Bon, c'est un collègue qui est au Québec, donc ce n'est pas en France, mais enfin voilà. Okay, donc très bien, mais faites attention je crois, à ce que je vous ai dit.
Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on ne peut qu'être d'accord. Aujourd'hui, on a choisi de vous présenter plutôt le travail donc quantitatif ou numérique qu'on mène dans le cadre de Média et d'IMAPS, parce que ça nous semblait la chose peut-être plus intéressante pour la journée d'aujourd'hui. Mais il faut dire aussi que dans le cadre d'IMAPS et de Média, il y a deux choses. Donc, ce travail de méthode numérique, plutôt quantitative, est doublé d'une enquête qualitative, très importante, qu'on mène surtout dans le cadre du projet Média. Et là, même mes compétences à moi et celles de Nicolas sont un peu préfigurent cette double nature de ces projets, parce que moi, je m'intéresse plutôt aux méthodes numériques, au Media Lab, alors que Nicolas a plutôt une approche qualitative. Il y en a d'autres chercheurs qui sont carrément qualitatifs. Donc, il y a aussi une enquête dans laquelle on va rencontrer les acteurs de ces controverses-là, pour essayer d'en extraire des questions de recherche, comme vous le dites, et puis pour leur présenter, pour les confronter aux cartes, pour voir quelles sont leurs réactions et pour voir si on va dans la bonne direction ou pas, parce qu'en effet, sinon, il y a un effet d'éparpaillement qui est terrible. En plus de ça, on a des experts dans les consortiums des deux projets. Parce que dans le cadre de IMAPS, on a l'Institut du Special Planning de Dortmund. Donc, c'est des géographes, des planificateurs, des aménageurs territoriaux qui travaillent avec nous, justement, en tant que professionnels de l'adaptation, de la pratique de l'adaptation pour justement, nous aider à guider le procès quantitatif. Et dans le Média, on a des climatologues, donc le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement de Paris. Et troisième précaution qu'on a pris, dans les deux cas, et surtout dans IMAPS, on essaie d'aller, on rencontre très très vite, dès le début, des acteurs de la controverse. Donc c'est pour ça aussi qu'on a des partenariats avec Climate Science Update, WeAdapt.org, on a rencontré les gens de l'ONERC, on va rencontrer Climate Compass, qui est l'équivalent de l'ONERC en Allemagne, et ainsi de suite. On essaye, dès le début, dès qu'on a des petits prototypes, les cartes qu'on vous a montrées et d'autres, de les montrer le plus possible à ce qu'on appelle des sortes de alpha users, qui nous aident à dire, bon, là, vous partez dans la mauvaise direction, ou surtout, oubliez cette carte-là, ça ne sert à rien, prenez plutôt ces autres-là. Donc, on espère qu'avec le travail d'enquête qualitative et le travail de community building, je ne sais pas comment on l'appelait, d'interaction avec les acteurs, on pourra en partie dépasser les problèmes que vous soulevez.
C'est un classique, le problème aussi de l'opacité de la lecture de ces cartes, mais il y a effectivement tout un travail de... Ben, ce sont des outils, il faut une certaine pédagogie aussi de la lecture, de l'analyse des réseaux. On n'est pas habitué à lire des réseaux. Moi-même, j'ai appris. Ce que j'ai constaté, c'est que souvent, celui qui peut mieux la lire, c'est celui qui l'a faite. Mais cela ne nous suffit pas. Il faut que les gens soient... Mais c'est un peu la limite. Mais on est parti de cette contradiction avec la présentation. Comment présenter des choses très complexes, garder les nuances et en même temps les rendre lisibles et pouvoir communiquer. Comment réduire la complexité et en même temps ne perdre la richesse de la chose. Et aussi en même temps la tension entre le qualitatif et le quantitatif. Et moi, nous, on le vit à l'intérieur du projet. Des fois, je ne suis pas très satisfait de certaines choses qui m'ont l'air très quantitatives. Et des fois, on dit, mais on commence à découvrir. C'est très expérimental, la chose. Et c'est le développement des nouveaux outils qui vont peut-être marcher. Il y a un risque d'échec, évidemment. Mais on essaye de faire marcher des nouvelles moyens d'enquête et de présenter les choses aussi.